about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Segalevitch et Fabienne Pascaud se font face à notre affiche Bovary de Thiago Rodriguez, d'après Gustave Flaubert, au Théâtre de la Bastille à Paris. La dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène de Peter Stein, c'est au Théâtre de l'Œuvre. Je passerai enfin l'émission un coup de fil à l'ombromane et magicien Philippe Beau. Avant cela, un autre magicien, Antoine Guillot, à 21h20 pour la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Nous gagnons des livres La pudeur d'Adèle Van Rett et Eric Fiat, collection Questions de caractère, coédition France Culture et Plomb. Enfin, nous avons rendez-vous avec la soprano Patricia Petitbon qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec celui qui occupe créativement un théâtre, celui de la Bastille, le metteur en scène et dramaturge portugais Thiago Rodriguez, Occupation Bastille. C'est le titre qu'il avait choisi il y a plusieurs mois déjà pour sa présence dans ce théâtre de la rue de la Roquette du 11 avril au 12 juin. Plusieurs propositions y sont faites durant ces 68 jours, dont ce spectacle Bovary, d'après Gustave Flaubert, qui s'y joue jusqu'au 26 mai, d'après le roman, mais aussi d'après le fameux procès intenté à l'auteur en 1857, puisque l'on va entendre dans ce spectacle des extraits du réquisitoire et de la plaidoirie, ainsi que certaines lettres de Flaubert écrites à cette période. Le texte est publié aux Solitaires intempestifs, dans une traduction de Thomas Rezendes. Le tout est joué par 5 comédiens dont certains vont endosser plusieurs rôles sur le plateau quasi nu du Théâtre de la Bastille, à l'exception d'une table, de quelques chaises et de paravents.
Avant de vous raconter ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui, j'aimerais répondre à une de vos aimables questions. Vous m'indiquez, comme d'autres amis l'ont déjà fait d'ailleurs, une incohérence dans la description des yeux d'Emma Bovary. Hein. Vous me demandez si c'est une négligence de ma part ou s'il y a un symbole derrière cette inconstance. Vous vous étonnez que les yeux d'Emma Bovary changent de couleur et soient tantôt brun, bleu ou noir. Cette question est tout à fait légitime. Quand Charles la rencontre, ce qu'elle a de plus beau est ses yeux bruns. Couché près d'elle dans les premières matinées passées ensemble au lit, Charles remarque que finalement, ses yeux sont bleus foncés quand le soleil s'y réfléchit. Et plus tard, les deux amants, Léon et Rodolphe, sont fascinés par les yeux noirs d'Emma Bovary, de plus en plus noirs à chaque chapitre. Il y a pour cela une explication simple, même si dans la simplicité se cachent toujours de grandes complications. C'est qu'il y a des yeux qui changent de couleur selon la lumière. Nommez lumière ce que vous voudrez, cher ami. J'espère que cette réponse vous conviendra.
Voilà pour ce court extrait de Bovary à l'affiche du Théâtre de la Bastille jusqu'au 26 mai. Je commence avec Anna Segalevitch pour une première impression sur ce spectacle, Anna.
Alors, pour les premières impressions, mais c'est un spectacle que je peux dire tout de suite que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pourtant pas sans défaut, je trouve. Voilà, je trouve qu'il y a il y a quelques longueurs.
On n'aime pas que la perfection, Anna.
Comment?
On n'aime pas que la perfection,
non,
vous
non,
le
non,
savez
mais
bien.
Voilà, je trouve qu'il y a quelques longueurs. Il y a des moments où le procédé s'essouffle un peu, mais en même temps, je pense que c'est inhérent à cette façon de faire du théâtre.
Alors, il faut l'expliquer.
Voilà. Donc, expliquons. Thiago Rodriguez, il a beaucoup étudié avec les protéger Stan.
Beaucoup joué même aussi avec
oui,
eux.
Oui, mais il a 21 ans, il est allé travailler avec eux. Il s'est vraiment formé avec cette façon de faire du théâtre, qui est une façon où on se met en jeu avec un vide possible. Les spectacles ne sont pas trop calibrés, on n'est pas sur des rails. Il peut y avoir une forme de vertige, il peut y avoir quelque chose de flottant. Les spectateurs sont complètement considérés et font partie de la façon dont les acteurs interprètent en fait les spectacles, c'est-à-dire que ça bouge vraiment tous les soirs normalement, et les spectateurs donc sont considérés. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a presque une double triangulaire en fait dans ce spectacle-là, dans cette Bovary-là, parce que là où pour moi il se différencie un petit peu des Tézéchtan malgré tout, c'est que collectif dans la façon de travailler, dans la façon de faire du théâtre, oui, mais je trouve qu'on sent vraiment quelqu'un à la mise en scène derrière, de très fort. Je trouve qu'il a une personnalité qu'on sentait très fort dans By Heart. Bon, il était par ailleurs sur scène, clairement, mais je trouve qu'on sent quelqu'un et que c'est lui qui a écrit la pièce.
On l'avait vu pour Antoine et Cléopâtre à Avignon.
Moi, je ne l'ai pas vu.
Ah, vous ne l'avez pas vu?
Non,
bah, vous le verrez à la rentrée à la Bastille, en septembre.
Je n'étais pas à Avignon à ce moment-là.
Bon, on évoquera avec Fabienne.
Voilà, j'imagine. Malheureusement, donc c'est le deuxième spectacle que je vois de lui. Et donc, il y a une double triangulation, triangulaire, je dirais plutôt, dans le sens où il y a les spectateurs qui sont pris en compte, lui, Thiago Rodriguez, et les acteurs qui sont sur scène. Et il y a aussi quelque chose de triangulaire dans la construction du spectacle, où on a à la fois le procès de Flaubert, puis le roman de Madame Bovary, Madame Bovary, et le personnage de Flaubert qui est là. Enfin, voilà, il y a l'histoire, le procès et la fiction. Et tout ça se tricote en fait petit à petit de façon étonnante, où on glisse en fait de plus en plus dans la fiction. Voilà, il y a une première chose, c'est que la façon dont il fait jouer les acteurs et dont il considère les acteurs dans les personnages est une chose que je trouve absolument jubilatoire, parce que on sent vraiment les acteurs qui se glissent peu à peu dans la peau des personnages, et on voit et les acteurs et les personnages. Ça, c'est une chose que je trouve particulièrement réussie dans ce théâtre-là. Bon, pour un premier regard sur le spectacle.
Très bien. Premier regard de Fabienne Pascaud sur ce Bovary.
Moi aussi, c'est un spectacle que j'ai beaucoup apprécié. Thiago Rodriguez, j'avais vu donc deux spectacles de lui, By Heart, comme vous, et puis cet Antoine et Cléopâtre, qui était une réduction, si l'on peut dire, de Shakespeare, incarné par des danseurs, chorégraphes, avec quasi rien sur le décor, des phrases qui revenaient en leitmotiv, et il avait complètement réécrit la pièce, qui est fort longue et réduite à deux personnages. Et moyennant quoi on comprenait tout de ce poème d'amour, de politique, de pouvoir, d'abandon, de renoncement. C'était vraiment magnifique.
De sensualité.
Et de sensualité, bien entendu. De beauté, c'était d'esthétisme aussi. Parce que les danseurs, c'était totalement hypnotique.
Il sera donc à la rentrée en septembre ou octobre, je crois, au Théâtre de la Bastille.
Exactement.
À Paris.
Et ce côté empoigner les chefs-d'œuvre pour les réduire jusqu'au sang, jusqu'à la poésie, jusqu'à la pure beauté. Il fait pour moi la même chose avec Bovary, parce que, alors évidemment, il a créé ce spectacle pour les Portugais. Alors les Portugais sont peut-être moins susceptibles que peut l'être le public français vis-à-vis d'un de ses chefs-d'œuvre national. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que Thiago Rodriguez, ce que j'ai apprécié, c'est son geste, comme Antoine Vitez pouvait avoir des gestes. Sa manière de faire théâtre de tout bois, avec rien, dans un espace un peu forain. Au début, les comédiens distribue des feuilles de papier, les feuilles du roman sans doute, qu'ils reprendront à la fin. Il y avait un mobile de Calder d'Antoine et Cléopâtre, là il y a de vagues loupes qui peuvent signifier qu'on regarde le texte à la loupe, et il mêle magistralement, comme vous l'avez dit Anna, il mêle trois types d'écriture. L'écriture de la fiction, c'est Bovary, et là encore, je trouve que les comédiens sont prodigieux. Ils résument admirablement le texte, l'histoire, l'intrigue, les hommes. Il n'y a que cinq personnages, mais tout y est. Il y a le politique, puisque réellement Flaubert avait lui-même exigé que son procès soit sténographié, tellement il pensait qu'il allait s'y dire...
Oui, il a payé quelqu'un pour prendre vraiment toute la sténo.
Tellement il pensait qu'il allait s'y dire des imbécilités. au même moment, il y avait Flaubert qui avait
Baudelaire.
Baudelaire, oui, oui, Baudelaire avec les fleurs du mal.
Avec le même procureur, mais Baudelaire a perdu.
Voilà, et Flaubert a gagné. Mmh. Et puis il y a le Flaubert intime, moi, il m'a fait beaucoup rire, notre ami
Bonafé.
Parce qu'il est quasi impuissant, mou sur scène. C'est
indépendant,
Flaubert,
indépendant. Il se promène comme ça,
il se promène.
Il est en dérance.
Et il écrit de temps en temps des lettres à son amour, à l'amour de sa vie, les Singer, pour lui raconter tout ce qui se passe. Donc, il a réussi de ces trois écritures à faire quelque chose de cohérent et à nous dire que l'art, finalement, c'est quelque chose d'incendiaire, c'est une fièvre, comme dit l'avocat de l'accusation, mais une fièvre qui brûle, et on aime bien être brûlé par les fièvres.
Oui, mais alors vous dites, alors moi je dis aussi que j'ai absolument eu beaucoup de plaisir à voir ce spectacle, il y a beaucoup de jubilation, en effet, il y a plusieurs niveaux, mais d'abord c'est vrai que l'histoire de ce procès intenté à Flaubert, moi c'est quelque chose qui m'a... comme beaucoup, hein, beaucoup toujours beaucoup intéressé, et que la figure du procureur Ernest Pinard, c'est quand même une figure qui, dans cette émission, la dispute à sa place, parce que...
Il dit des choses assez justes.
Parce que vous
dans
dites des bêtises, mais c'est un critique littéraire excellent,
exactement,
Ernest Pinard,
exactement.
Parce qu'il voit exactement tout ce que Flaubert a voulu
c'est ce
mettre
que dit
dans
Flaubert,
ce livre.
D'ailleurs, il dit juste, en fait, l'accusation est juste, elle a tout compris
mais
à mon
quand
roman.
Il a tout compris, Ernest
maladie
Pinard.
Contagieuse, oui, oui. Et que c'est son danger, quand avec la fièvre.
Vous écrivez
monte.
Ça, mais vous voulez dire ça. Bah oui, il a raison, le procureur et l'avocat, évidemment.
D'une mauvaise foi absolue.
Enfin, il joue son rôle, il défend. Donc c'est vrai que c'était un exemple de critique littéraire vraiment, enfin, absolument merveilleux. Donc c'est très réjouissant. Ce qui est renforcé quand même par le fait que ce soit Ruth Vega Fernandez qui joue le procureur Pinard et qu'elle est, elle aussi, ils sont tous les cinq très bien, mais vraiment, je trouve qu'elle a... Il faut quand même y aller, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans de précédents spectacles, cette actrice qui est vraiment là, est absolument rayonnante, vibrante, et puis qui d'ailleurs joue quelques autres rôles par moment, comme d'ailleurs on le fait chez les Tégestan, hein, effectivement, on peut se glisser d'un personnage à un autre, mais dans une vraie fluidité. Bon, moi j'ai toujours ce bémol sur la scénographie chez Thiago Rodriguez, vous parlez des calderes de Antoine et Cléopâtre, là ces espèces de paravent-loupes, je ne suis pas très...
Ça, il fait beaucoup avec
mais
eux,
on s'en fiche,
ça, ils
parce
ont
que la direction d'acteur...
beaucoup moins d'argent au Portugal qu'en France. Hein.
Ouais, mais la direction d'acteur est absolument magnifique, c'est vrai que ce que vous disiez sur les feuilles de papier, c'est très simple. Voilà, on les dépose, et après on les reprend, et puis après on les rejette, enfin...
Et c'est la fiction
sont des
qui
gestes
gagne.
Extrêmement
parce qu'en
simples.
Fait, il y a vraiment une symbolique qui est très belle dans tout ça.
Oui.
On voit vraiment ces feuilles qui sont distribuées sur le plateau, comme vous le disiez Fabienne au départ, et qui sont jetés en pâture, qui sont humiliés, en fait. C'est ce texte qui est souillé, on marche dessus, on le déchiquette, voilà, il y a quelque chose d'assez
oui,
violent. Voilà,
la
métaphore est belle. Et ça se termine par l'image de l'héroïne qui termine avec son roman serré contre son cœur. Et c'est la fiction qui gagne. Enfin, c'est très simple. C'est dit avec peu de mots, mais ça raconte, en fait, des choses très, très belles. Ce qui est très beau aussi, c'est les différents plans sur lesquels, Avec la façon dont c'est abordé, c'est-à-dire les personnages de Charles et d'Emma ont quelque chose d'extrêmement romanesque, je trouve. Ils sont un peu en décalage avec les autres et on sent, je trouve même, le personnage d'Emma, qui est interprété par Alma Palacios, qui est formidable, d'une subtilité, elle est extrêmement touchante, cette fille. Et on sent, je trouve, la comédienne qui est gagnée et qui est émue et inspirée par son personnage. Et je trouve que c'est rare de voir à quel point, enfin, de toucher du doigt l'impact que peut avoir un personnage sur un acteur. Et ça, on le voit en direct sur scène. C'est-à-dire que, peu à peu, elle brûle, elle devient complètement incandescente, alors qu'elle est normale. Elle est habillée normalement, elle est jolie, mais bon, elle est pas non plus à tomber par terre. Enfin, elle est normale, quoi. Enfin, et puis elle a quelque chose de très moderne. Et petit à petit, on la sent gagner par ce personnage. Et elle rayonne comme ça au milieu de tous les autres. Et d'ailleurs, tous les autres, quand ils vont se frotter à elle, ils vont eux-mêmes être gagnés par la puissance de la fiction. Ça, c'est incroyable. Donc, comme vous le disiez, Arnaud, le personnage du procureur
Pinard,
de Pinard, qui est donc interprété par Ruth Vega Fernandez. En fait, par moment, alors, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas totalement clair. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait tout d'un coup? Elle embrasse Emma. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Et alors, on se dit, mais attendez, est-ce que c'est le procureur Pinard? Ou est-ce que c'est,
Rodolphe?
Ou est-ce que c'est l'actrice? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est légèrement tangible. Et tout d'un coup, on voit que cette jeune femme qui embrasse, le personnage d'Emma Bovary, est complètement brûlée par ça, elle devient incandescente et elle devient troublée. Et le trouble, on ne sait pas exactement en fait d'où il vient et ce qui réveille. On voit juste un corps réveillé en direct sur scène voilà, par la façon dont il est mis en jeu. Et ça, c'est, enfin, je trouve que tout est joué un petit peu comme ça. Et
Alors évidemment, il y a quand même des longueurs, il y a effets musicaux un peu faciles, mais c'est quand même un metteur en scène qui prend risques, qui prend des risques et qui interpelle le public, quoi. Il nous éveille à ce roman qui est quand même d'une terrible, je vais dire une banalité grosse comme moi, qui est d'une modernité. Cette Emma, elle est formidable quand même. Quel risque elle prend dans sa province, quelle femme dangereuse, quel cancer elle jette au milieu de tous ses proches. C'est formidable qu'elle s'ennuie, certes, mais elle ose tellement de choses. Et donc, il nous rend infiniment proche sa rébellion.
Ouais. Et puis, en nous la rendant très bien, parce que c'est vrai que c'est très stupéfiant quand même, la facilité et la fluidité avec laquelle il résume ce roman qui est quand même dense. Enfin, on a tous fait l'expérience au moins une fois de sa lecture, voire deux ou plus, et tout est donné. C'est très étrange. J'ai l'impression qu'il arrive à contracter le temps, Diego Rodriguez, par son écriture. Hein, je l'ai dit, c'est publié au Solitaire d'Intempestif. Moi, je me suis replongé dedans.
Il y a un retard de la réduction.
C'est un don.
Oui, c'est vraiment un don, puisque c'est hyper fluide, hyper articulé. Et ce qu'on sent, ce qu'il arrive vraiment, c'est à partager avec les spectateurs la vivacité des émotions que procure le roman. C'est-à-dire que non content de nous raconter l'histoire, il arrive à nous transmettre les émotions qu'elle génère, qui sont vraiment ardente. Étonnant.
Alors, il y a d'autres choses étonnantes pour Diego Rodriguez, puisque j'ai dit qu'il était pendant 68 jours au Théâtre de la Bastille, c'est donc jusqu'au 12 juin. Il y a ce Bovary donc, qui se joue jusqu'au 26 mai. Et puis, voilà, il a mis en place des choses très particulières, puisqu'il a réuni des spectateurs, des volontaires, l'équipe du théâtre aussi autour de lui, pour différents moments. Je ne sais pas comment les nommer. Hein. Il y en a un qui s'appelle « Ce soir ne se répétera jamais ». Ce seront les mardis 10, 17 et 24 mai à 20h. Voilà, ce sont les spectacles qui sont en train d'être écrits, d'être en train d'être répétés, en train d'être mis en scène par des participants qui occupent le Théâtre de la Bastille, mais là à l'invitation du créateur. Et puis, je t'ai vu pour la première fois au Théâtre de la Bastille, ce sera du 6 au 12 juin à 20h, vous êtes un peu plongé dans ces différents projets, vous avez regardé ?
Un petit peu, mais moi j'ai très envie d'y aller. Mais il a déjà commencé à créer ça avec By Heart, selon moi. Oui. Parce que moi, quand je suis allée voir By Heart, il y avait une jeune fille qui faisait partie. Donc les jeunes se jetaient sur scène, ils voulaient tous réciter, enfin apprendre le sonnet par cœur, c'était assez fou. Mais bon, bref. Et il y avait une jeune fille donc qui faisait partie des jeunes, et je trouvais qu'elle avait quelque chose, etc. Et cette jeune fille, je l'ai retrouvée ouvreuse au Théâtre de l'Odéon, puis re-spectatrice le même soir que moi à Bovary. Et donc, je trouve qu'il crée une attention entre les spectateurs, etc., peut générer peut-être quelque chose. En effet, en tout cas, il a quelque chose de franchement original, quoi, je trouve, ce garçon.
Et puis, il est absolument irrésistible. Vous avez eu la chance de le rencontrer pour Télérama, me semble-t-il. Il y avait un bel entretien avec Thiago Rodriguez.
Oui, il y avait un entretien. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il avait accepté mon timing. J'ai pu l'interviewer à 8h du matin, par exemple, à 7h30 la deuxième fois. Il bosse tout le temps.
Vous êtes levé depuis longtemps à ce heure-là, vous, Fabienne.
Il bosse énormément. Ah ouais. Quand il a pris la direction du Théâtre National de Lisbonne, qui est l'équivalent de notre Comédie Française, avec moins de moyens, hein, en 2012, il a fait, je crois, 40 créations la première année. C'est quelqu'un qui travaille, et qui a un rapport à la littérature. Alors, ses parents, son père était journaliste, il a été introduit très tôt dans les rédactions, il adorait ça, il aimait le goût du papier, de l'encre. Mais il a vraiment un rapport à l'écriture qui est, je crois, formidable, qui est consubstantiel, quoi. C'est sa boulimie.
Ouais, on a envie d'en voir plus encore du Diego Rodriguez, on a envie que ça continue longtemps, ces propositions de continuer à voir ce metteur en scène présent jusqu'au 12 juin pour l'heure au Théâtre de la Bastille. Je l'ai dit, on le retrouvera à la rentrée avec cet Antoine Ton Cléopatre. Respire. Je vous dis l'essentiel de mon portugais ici. Le texte de celui-ci en français dans la traduction de Thomas Rezendes, Bovary, est édité au Solitaire d'Intempestif.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de la dernière bande, Samuel Beckett. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, la soprano Patricia Petitbon. Et avant cela encore, c'est le moment du grand air d'Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Les intermittents tiennent désormais le bon bout, se réjouit l'humanité. Un accord en forme de pied de nez au MEDEF pour les échos, un accord acceptable selon Le Monde, avec des avancées suspendues au bon vouloir du MEDEF, relativise Libération. Enfin, salut Sophie Rahal de Télérama. Il aura fallu 16 réunions officielles et 10 heures de négociations dans la nuit de mercredi à jeudi, mais in fine, l'accord est là. Ou du moins un projet, au-delà des mesures concrètes qu'il comporte, 507 heures de travail sur 12 mois pour tous, retour à la date anniversaire, ce texte est surtout un signal fort adressé par les syndicats et les employeurs du monde du spectacle qui ont négocié entre eux les règles d'indemnisation chômage des artistes et techniciens intermittents. Une première, oui, le monde de la culture a pris ses responsabilités, oui, les professionnels du secteur ont réussi à s'entendre, mais pour devenir réalité, le texte doit encore être examiné par un comité d'experts, puis par les partenaires sociaux, à eux désormais de prendre leurs responsabilités. L'État, lui, a annoncé dès jeudi le déblocage de 90 millions d'euros, mais tout le monde dans la presse ne s'en réjouit pas. Pour Gaëtan de Capelle du Figaro, cet accord, c'est le spectacle de la désolation. L'exception culturelle française ne s'est jamais si bien portée. Au nom de ce concept pompeux, estime-t-il dans son éditorial, il est admis qu'une catégorie de salariés, les intermittents du spectacle, jouissent d'un statut exorbitant du droit commun et usent de tous les moyens pour le préserver. C'est ce qui nous vaut année après année la comédie qui se rejoue ces jours-ci. Une poignée de militants encartés, assistés cette fois de quelques énergumènes de nuit debout, squatte un prestigieux théâtre de la capitale, empêche des représentations à la Comédie-Française et menace ouvertement de perturber les manifestations à venir, le tout sous le regard pétrifié du gouvernement, soucieux de ne pas énerver davantage ses agitateurs patentés, ni de se mettre à dos le monde de la culture et ses professionnels de la pétition. En ces temps de déficit record et de chômage de masse, il va pourtant bien falloir que ce petit club sorte de sa bulle. Sans doute s'agissant d'une si noble matière, est-il à ses yeux grossier de par les chiffres, mais tout de même, lorsque, du seul fait de son statut spécial, une profession de 250 000 personnes creuse à elle seule un quart du déficit de l'assurance chômage, soit 1 milliard sur 4, il est plus que temps de sortir sa tête du sable. De toute façon, tout cela est un jeu de dupes pour l'éditorialiste des Échos. Certes, l'État de son côté se frotte les mains, il devrait s'éviter une grève des festivals d'été pour un investissement limité, les 90 millions d'euros promis jeudi par Matignon correspondant peu ou prou à ceux qui avaient déjà été mis sur la table de façon provisoire l'an dernier, mais attention à l'effet boomerang, un tel arrangement à minima n'est pas de bon augure pour l'issue de la négociation sur l'assurance chômage et en cas d'échec, la gestion de ce régime très déficitaire reviendra en direct à l'État. Il sera alors peut-être temps de reposer la question. Est-il légitime que les seuls salariés du privé financent via le régime des intermittents du spectacle une politique culturelle qui bénéficie à tous les Français ? La réponse pour les Échos est non. Mais le mot est lâché, il s'agit bien de politique, comme l'estime de son côté Christophe Barbier dans son édito de Express, titré « Ah, les étranges animaux à conduire que des intermittents », il convient, écrit-il, de regarder ce dossier pour ce qu'il est, non un obscur entrelac de calculs techniques et d'annexes alambiquées, mais un sujet politique et un enjeu de civilisation. La saga de l'intermittence témoigne d'abord de l'incapacité des politiques à assumer le coût de la culture. La droite, après le conflit terrible de 2003, achète la paix des tréteaux en laissant filer les déficits de cette branche de l'assurance chômage. Dès lors, le trou annuel franchit vite le milliard d'euros. En 2014, la gauche botte en touche en répartissant autrement le fardeau budgétaire. Bref, la première a choisi de perdre de l'argent et la seconde du temps. Aucun gouvernement n'a été assez courageux pour régler le problème au fond. Pour ce faire, il faudrait changer le registre du discours et passer de l'épicier à l'homme d'État. D'abord, préconise Christophe Barbier, le politique doit ôter le dossier aux partenaires sociaux et s'en occuper pleinement. Puis, il doit clamer qu'il ne s'agit pas ici d'effectuer des arbitrages, mais d'affirmer un choix de civilisation. Une nation sans culture vivante est une nation qui n'a plus rien à dire au monde et mourra bientôt. Aider de nombreux artistes à vivre et à travailler, c'est au contraire disposer d'une diplomatie flamboyante pour éclairer le monde et d'une armée pour combattre combattre l'ignorance. L'éducation nationale, si prompte à bousculer ses horaires et à vanter le périscolaire, sous-utilise d'ailleurs ses nouveaux hussards. Le dossier de l'intermittence montre aussi l'impuissance de l'administration en son devoir de contrôle, des employeurs qui abusent de ce statut au lieu de créer des CDI, aux artistes qui fraudent en achetant des cachets pour atteindre le seuil d'heures travaillées ouvrant droit à l'indemnisation. Le système fuit de toutes parts et l'État plombier ne regarde que la facture, jamais les tuyaux. Enfin, aucun politique n'a le courage d'expliquer que l'intermittence est moderne, qu'elle va s'installer dans de nombreuses professions et qu'il faut la cultiver. Quand on n'est pas payé pour exercer son talent, on est rémunéré parce qu'on l'affûte en répétant ou en se formant. Tel sera demain, prophétise le directeur de l'Express. Dans tous les secteurs, l'activité de ceux qui auront un savoir-faire à vendre et pas seulement une force de travail à louer. Nous sommes ou serons tous des intermittents. Faut-il pour autant s'en réjouir ?
Bon, c'est bien, on dirait Christophe Barbier a lu le livre de Pierre-Michel Menger de 2002, donc c'est quand même, il était temps que ça arrive jusqu'à la rédaction de l'Express, non, Amine Pascot ?
Oui, enfin, il dit des choses pas mal d'ailleurs. Non,
pas que.
Parce que sur le scandale des intermittents, c'est vrai que nos entreprises de services publics,
oui.
France Télévisions, Radio France, bien sûr.
Enfin, Jean-Pierre Vincent, c'était dans son rapport il y a 20 ans.
Exactement,
ça, je crois, donc,
exactement.
Rien de nouveau non plus.
Moi, je pense que c'est formidable, grâce à la loi préconisée par Manuel Valls sur le dialogue social de 2015, pour la première fois, les intermittents ont eu le droit d'être à une table, les employeurs comme les organisations professionnelles, et de discuter et de proposer des mesures. Donc, ils ont pu montrer au MEDEF qui les prend pour des profiteurs tout le temps, et bien que c'était des gens responsables,
des assistés.
Et donc ça déjà en soi, c'est...
Enfin, depuis 2003, les intermittents, certains en tout cas, ont fait le travail qu'il fallait, économique, de projection.
Exactement, et les employeurs, les employeurs du spectacle ont accepté que leur cotisation monte de 1%. Il y a eu les indemnités vacances, ne sont plus quand il y a indemnisation chômage. Enfin, chacun a fait des efforts. Et ça, c'est formidable. Maintenant, il faut que ces efforts soient chiffrés et soient acceptés par le MEDEF, c'est pas gagné.
La Fédération CFDT de la Culture, ce soir, signé à son tour cet accord.
Le MEDEF veut vraiment que l'État donne de l'argent.
Absolument.
Or, la CFDT refuse. Et ils ont raison.
Mais oui, bien sûr, parce que là, on est en 2016. Qu'est-ce qui va se passer dans
qu'est-ce
un an
qu'est-ce qu'il va y avoir après au gouvernement
bien sûr.
Si l'État doit être obligé de donner 90 millions chaque année, ça va parce que c'est des socialistes et qu'ils aiment plutôt la culture, mais un gouvernement de droite...
peut l'arrêter dans un an.
Exactement.
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que l'État ne donne rien. On est d'accord.
Pour l'instant,
avec
l'État ne dit rien. En même temps, il y a un Conseil national du spectacle vivant qui va être réuni dans une quinzaine de jours. On verra ce que l'État dira à ce moment-là, mais il faut surtout attendre la position du MEDEF, Alain Sinelevitch.
Oui. En tout cas, le retour à la date anniversaire, c'est vraiment une bonne chose parce que ça fera... Ça...
Moi, j'ai jamais compris ce que c'était que le retour à la date anniversaire.
C'est simple. En fait, jusqu'à il y a quelques années, c'était sur 12 mois. Donc, il fallait faire 507 heures en 12 mois pour les artistes et les techniciens. Ensuite, c'est passé à 10 mois et demi pour les artistes et 10 mois pour les techniciens. Tous les abus dont vous parliez de Radio France,
de répétitions non payées aussi.
Ça n'a rien à voir avec les. De toute façon, les heures sont faites en 3 ou 4 mois, donc ça n'a rien à voir. Ça vise vraiment à privilégier les plus fragiles, c'est-à-dire les vrais intermittents qui ont vraiment du mal à faire leurs heures en 10 mois et demi. Donc ça les protège. Donc c'est
la date anniversaire, c'est un an quoi.
Voilà, c'est un an, c'est tout simplement
ce qui
un an.
C'est assez logique pour une date anniversaire.
C'est glissant comme on dit.
C'est plus glissant,
voilà.
Etc.
Bon, voilà. Et ça favorise vraiment les plus fragiles. Donc ça a un sens. C'est comme sur le congé maternité. Il y avait quelque chose d'assez compliqué sur le congé maternité et les arrêts maladie qui là ont été rectifiés de façon que moi, je trouve juste.
Qui semble plus juste. En tout cas, la discussion est toujours en cours. Et voilà.
Espérons qu'elle parvienne à un bon résultat.
Ben oui, mais assez rapidement.
Ouais.
Hein, rappelons-le. Festival de Cannes, c'est quand, Antoine, Guillaume?
Eh bien, c'est mercredi prochain.
Dans 8 jours?
Dans 8 jours.
Ah bon, non, parce que mercredi prochain.
Mercredi en 8.
Mercredi en 8, d'accord. Bon, ben effectivement. Voilà, le chronomètre et l'horloge tournent dans tous les sens, de toute façon. Voilà pour cette actualité. Donc, on va continuer à suivre, évidemment, semaine après semaine, jour après jour. Dans quelques minutes, nous parlerons de la dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène Peter Stein au Théâtre de l'Œuvre. Là aussi, on réécoute sans arrêt. On a l'impression d'entendre les revues de presse qui, année après année, répètent les mêmes choses. Mais finalement, la dernière bande, c'était un peu cela aussi. Comment on réécoute et comment l'actualité toujours celle du moment où on a parlé ou celle d'aujourd'hui. Bref, on retrouvera cette discussion sur la dernière bande après l'invité, la dispute, toute cette semaine. C'est la marraine de tous à l'opéra cette année, la soprano Patricia Petitbon, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Patricia Petitbon, très heureux de passer cette semaine avec vous. C'était un petit moment que je vous espérais à ce micro pour pouvoir parler de vos goûts dans toutes les matières. Mais comme on commence avec le spectacle vivant, je me demandais, vu vos talents d'interprète dramatique, parce que il y a la voix certes, mais il y a aussi cette présence scénique qui est très très forte et très belle, espiègle, inattendue, toujours chez vous. Est-ce que le théâtre, ça pourrait vous intéresser à jouer sans chanter?
Oh bah je suis surtout inspirée, je dirais, que par le théâtre. c'est vrai que c'est un puits sans fond, de pouvoir rencontrer des acteurs, de parler de ce travail sur la présence, sur le charisme, c'est inépuisable parce que c'est aussi quelque chose de mystérieux et une forme d'exploration de soi et des autres et de ce qui nous entoure. Donc forcément, oui, le théâtre, c'est vrai que je le côtoie assez souvent avec des metteurs en scène qui sont vraiment de plein pied au théâtre, comme Olivier Py, Katie Mitchell, qui est aussi l'univers du cinéma, mais aussi Eric Ruff récemment. Pour moi, c'est important d'avoir cet échange avec des comédiens tels que Didier Sandre, de parler de ce qui est fondamental, de ce qui est endogène, de la cellule. C'est parce que c'est l'essentiel en fait, c'est l'exploration.
Et votre emploi du temps bien chargé vous permet quand même d'aller au spectacle de temps en temps?
Ah, c'est très compliqué parce que je suis quelqu'un qui ne va pas forcément au théâtre pour me divertir, mais pour me nourrir. Donc pour se nourrir, il faut être très ouvert, très disposé. Parce que, par exemple, si je vais à l'opéra, je chante avec les collègues, vous voyez. J'ai les cordes vocales qui se mettent en place et qui vont travailler toute la nuit. Donc c'est très compliqué pour moi, parce que généralement, j'ai un énorme lâcher-prise après les concerts. Je m'étale. J'accepte, je dirais, le vide. C'est très important de passer du vide au plein. Donc, mais ça m'arrive effectivement d'aller au théâtre. Et là, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller à la Comédie Française, voir Lucrèce Borgia avec Guillaume Gallienne, que je trouve assez fascinant.
Et Eric Ruff aussi, qui joue son époux.
Aussi. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces grands comédiens, Denis Podalydès, qui où il y a aussi ce jeu de l'extrême entre le sublime, le farfelu, toujours cette corde qui est tendue, parce que je trouve que c'est ces extrémités qui sont les contrastes qui sont intéressants, et donc j'apprends énormément à leur contact, même en parlant, en s'échangeant quelques phrases, parce que justement c'est cette façon de mettre en éclairage l'essentiel de l'art.
C'est vrai que les comédiens et comédiennes, eux, sont souvent fascinés par les chanteurs et chanteuses lyriques, donc c'est
qu'il y a
l'aller-retour.
C'est vaste communicant.
Voilà. Mais à propos de lyrique, cette occasion de votre venue aussi, elle est liée à Tous à l'Opéra, qui est la 10e édition. Vous en êtes la marraine cette année, Patricia Petitbon. Moi, c'est vraiment un moment que je trouve important pour la vie lyrique dans ce pays, parce que ça concerne des maisons d'opéra partout en France, et que c'est un vrai moment de rencontre possible. D'ailleurs, vous donnerez une masterclass.
Oui, grand mot. C'est un échange.
Ouais. C'est un échange, mais enfin, vous payerez aussi de votre personne à la fois à la Philharmonie de Paris et puis à l'Opéra Royal de Versailles, mais l'envie que les gens aillent plus facilement dans ces maisons qui peuvent être un peu impressionnantes.
Oui, c'est-à-dire c'est offrir aussi des moments de beauté. C'est ouvrir des lieux de beauté, de lumière, de transparence, de voir que cette beauté, elle est liée à toutes sortes de petits métiers, entre guillemets, qui sont de grands métiers autour de l'artisanat, que ce soit des éclairagistes, des machinistes, des coiffeurs, des maquilleuses, l'art plastique, que le théâtre est vraiment une sorte d'univers à multiface. Et voilà, c'est très important qu'il y ait cette curiosité. Alors, voilà, pour moi, c'est la clé aussi de l'humanité, la beauté. L'art, c'est ce qui transcende, c'est ce qui permet de réfléchir, de penser. Et je pense que c'est une véritable bouée de sauvetage. Et aussi l'éducation artistique, que les enfants soient au cœur de cette préoccupation de la culture, surtout en ce moment, car le monde bouge, évidemment, n'a pas fini de bouger, hein, c'est comme des plaques tectoniques. Mais je pense que vraiment le ciment de l'être humain, c'est sa réflexion et sa capacité d'aller au-delà des murs. Et donc, oui, ce sont des événements, je pense, importants pour pouvoir intéresser une jeunesse qui n'aurait pas accès à des lieux. Voilà. Et la beauté, elle a le droit d'être appréciée par tout le monde.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant avec un classique moderne, La dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène par Peter Stein. C'est au Théâtre de l'Œuvre, interprété par Jacques Weber. On l'avait quitté en Navarre, dirigé par Jean-Louis Martinelli. On le retrouve donc en Crappe, chez Beckett. Cette pièce créée en 1959, que Beckett a mise en scène lui-même d'ailleurs, en 1970 aussi. Crappe, écrivain raté, clochardisé, qui vit dans un très grand dénuement, qui soliloque en réécoutant année après année une vieille bande magnétique, sorte de journal intime où il raconte à la fois le bonheur de son amour, puis de sa rupture.
J'étais là quand le store s'est baissé. Un de ces machins marron sale qui s'enroule. J'étais là, en train de jeter une balle pour un petit chien blanc. Ça s'est trouvé comme ça. J'ai levé la tête, Dieu sait pourquoi. Et voilà, ça y était. Une affaire finie. Enfin. Je suis resté là quelques instants encore, assis sur le banc avec la balle dans la main et le chien qui jappait après et la mendier avec la patte. Instant. 16 instants à elle. Mes instants à moi. Les instants du chien. À la fin, je la lui ai donnée et il l'a prise dans sa gueule doucement, doucement. Une petite balle de caoutchouc, vieille, noire, pleine, dure. Je la sentirai dans ma main jusqu'au jour de ma mort. J'aurais pu la garder, mais je l'ai donnée au chien.
Voilà pour cet extrait, très apparemment enregistré pour la radio, si je puis dire. C'est pas une prise de son du spectacle. C'est vrai que le Théâtre de l'Œuvre fait ça régulièrement. Alors, meilleure qualité sonore, parce qu'on a souvent des extraits d'une drôle de qualité, mais
on
voilà, le rendu
n'est
pas le même, Anastasia
Galevitch.
Bon, on va y revenir, mais c'est pour signaler voilà, que ce n'est pas tout à fait ça que l'on entend au Théâtre de l'Œuvre. Enfin, si je vous en crois, moi, je n'ai pas encore vu ce spectacle, donc je suis tout ouïe pour savoir si je dois aller au Théâtre de l'Œuvre voir encore une fois, parce qu'on en a vu quelques-unes, si on aime le théâtre et qu'on y va souvent, des dernières bandes, Fabienne Pascaud, alors celle-ci.
Alors moi, quand je suis rentrée au théâtre de l'œuvre, Jacques Weber, enfin le personnage était déjà sur scène, et je me suis dit chouette, Michel Galabru est ressuscité. Michel Galabru, tendance Savary, hein, ouais. Pas voilà le gros nez, voilà. Et cette idée, cette impression, ne m'a pas quittée. J'ai détesté le spectacle.
D'accord.
Vraiment, détesté bon. Le spectacle. J'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une abrutie. Parce que, vous voyez, je m'en étouffe. On a vu, vous évoquiez toutes les dernières bandes qu'on a vues, et c'est vrai qu'on en a vu des superbes. On a vu Serge Merlin, mis en scène par Alain Françon, qui a commencé la direction de Frédéric Franck à l'œuvre en 2012. Et là, pour clore sa direction, parce que le pauvre a accumulé trop de dettes, il est obligé de vendre son théâtre. Donc, il refait une dernière bande avec Jacques Weber et Peter Stein. Mais autant j'avais aimé le travail des purs qu'avait fait Alain Françon avec Serge Merlin, et je ne parle pas de mise en scène antérieure avec David Warilo, par exemple, qui a été un interprète de Beckett exceptionnel.
Et Bob Wilson.
Wilson et tout le monde. Mais là, ils ont voulu privilégier l'aspect clownesque de Krapp, qui existe évidemment dans la pièce composée à la fin des années 50, alors que Beckett était très copain avec Buster Keaton, qu'il jurait par le cirque. D'ailleurs, dans En attendant Godot, il y a des références au cirque et tout ça. Mais là, moi, j'ai trouvé que ce texte qui est magnifique, qui est l'histoire d'un homme dégoûté par lui-même, qui se retrouve en proie au renoncement, qui se rend compte que sa vie était minable, qui réécoute, là il a 69 ans, à chaque anniversaire il réécoute, comme vous l'expliquiez, des bandes. Donc il écoute celles qu'il avait composées quand il avait 39 ans, quand il y avait encore des histoires d'amour possibles, une sexualité possible, un rapport à la nature possible. Là, il n'y a plus rien, il dit rien à dire, même pas quick, quoi. Et donc il n'y a plus rien. Mais ces identités successives, à la manière de Proust presque, hein, qui nous prouve que l'homme est composé de plusieurs individus, on ne ressent rien pour moi dans le travail de Jacques Weber. On a vu que c'était comme d'habitude très sonore, on a pu le voir dans cet enregistrement, que vous trouviez un peu trop beau. Ben non, c'est pas trop beau, c'est comme ça qu'il joue. Il fait de la voix pour moi. Et donc, aucune émotion ne passe, et ce renoncement à la vie, ce goût de la perte qui, comme toujours chez Beckett, ça meurt sans cesse et en fait ça ne meurt jamais, ça vit encore, ça respire encore. Eh bien là, je n'ai rien senti de tout ça. Je sais qu'Anna me regarde avec des yeux totalement éberlués.
Mais la parole est à Anna Sigalevitch.
Bon, alors...
J'avoue que j'ai pas vu le spectacle, mais par contre, quand j'ai découvert les photos de Jacques Weber, là, j'ai regardé ça ce matin...
Michel Galabru en moins bien.
Grimé en vieux clown, machin, courbé sur son... J'avoue que j'étais un peu surpris par cette... Il est seul sur scène.
J'espère qu'Anna va nous parler du délicieux gag de banane qui était pensé par Beckett, mais qui l'interprète comme si on était nous-mêmes les spectateurs dans un zoo.
Allons-y, Anna Sigalevitch.
Je comprends ce que vous voulez dire, Fabienne, je comprends votre ressenti.
Pour autant...
Pour autant.
Nonobstant.
Cependant. Ce personnage de clown, etc., pour moi, la façon dont on l'interprète Weber, c'est plus comme Emilian Nix dans L'Ange Bleu. C'est-à-dire.
Tête de Fabienne Pascaud.
J'étais sûre qu'on le ferait, ça, ce coup-là, d'Emilian Nix dans L'Ange Bleu. Ça, j'en étais sûre.
Vous attendiez à ce que je le fasse ou à ce que quelqu'un un jour le fasse? Bon. Et bah oui, mais moi j'y ai pensé en même temps. J'y ai pensé. C'est comme ça. C'est-à-dire que.
On trouve les excuses qu'on peut.
Cette déchéance, cette espèce de regard lucide et complètement désabusé. Moi j'ai été touchée en fait par Jacques Weber. Vraiment. C'est-à-dire que c'est très construit, effectivement. Il y a beaucoup d'artifices. Hein, il y a ce fauné violacé, ce visage blanc, ces chaussures de clown, qui sont écrites dans le texte, dans les didascalies, écrites par Beckett. Et en même temps, je trouve que c'est très construit, mais que le spectacle a quelque chose qui est droit dans les yeux. C'est-à-dire que ce qui pourrait paraître lourd, épais, etc. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'ai ressenti quelque chose de direct de la part de Jacques Weber. Je trouve qu'il va assez loin quand même à l'intérieur de lui. Il faut expliquer que ce texte, il y a donc c'est à peine 25 pages avec un tiers de d'action, un tiers de temps de parole et un tiers de d'écoute de bande. Donc c'est un rythme très particulier, c'est très 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 écrit. Il y a un nombre quand on regarde le texte, la moitié quasiment c'est des didascalies et c'est respecté à la virgule près par Peter Stein. Moi je trouve que dans cet exercice-là, Weber se révèle très intéressant parce que c'est une nature. Il a un côté monstrueux, je trouve, Weber. Et quand il est en roue libre avec des metteurs en scène qui le dirigent pas, il peut aller un peu dans l'excès ou dans un certain cabotinage. Et je trouve que là, il y a une concentration d'énergie qui rend, je trouve, ce qui se passe sur scène assez explosif. Je trouve que chaque geste, chaque parole, chaque silence est vraiment empreinte d'une épaisseur et d'une pesanteur. Hein. Ça, je suis d'accord. Hein. C'est un spectacle qui est presque éprouvant. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait quelque chose. J'ai eu l'impression de voir quelqu'un face à sa mort qui me regardait droit dans les yeux et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a touchée.
Fabienne.
Alors moi, ça ne m'a rien fait exactement pour ce que vous dites. C'est vrai que c'est totalement construit, mais cette construction, il fait tellement d'efforts, Jacques Weber, pour interpréter lui qui est plutôt, on pense parfois d'ailleurs à Cyrano de Bergerac, quand il a sa petite voix, qu'il écoute, et il était formidable dans Cyrano de Bergerac. Ça, c'était un rôle pour lui. Mais là, il fait tellement d'efforts pour l'épure, pour interpréter ce personnage beckettien, dont il doit avoir une idée minimaliste et un peu scolaire, que jamais il ne s'échappe de ces indications-là, de ces efforts-là. Moi, je le vois faire des efforts sans arrêt pour ne pas être Jacques Weber. Et je trouve que la mise en scène de Peter Stein est inexistante. Le seul geste de Peter Stein, c'est quand il mange sa fameuse banane.
Alors, racontez la banane.
Alors oui, donc c'est le côté, il a une banane crabe qu'il enferme dans un tiroir. Alors il y a tout un jeu, c'est sa seule occupation, c'est son seul dérivatif. Il va ouvrir le tiroir de son pauvre secrétaire métallique et deux fois de suite, il va se prendre une banane que, alors vous imaginez les gestes que Jacques Weber peut faire avec une banane qu'il se met dans la bouche jusqu'à nous faire croire que c'est une fellation. Donc il prend cette banane, normalement il la remet dans sa poche, mais là, grand geste de mise en scène, il la lance vers le public qui se prend la banane en pleine gueule. Moi j'aime pas beaucoup qu'on m'envoie des bananes. Hein, voilà, je suis pas un singe dans un zoo. Donc voilà. Mais c'est par rapport au didascalie, c'est la seule liberté. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est tellement factice. Ça manque tellement de grâce. C'est tellement. Alors certes, il sait bien, par exemple, un grand acteur comme Michel Bouquet, qui est pas du tout dans la matérialisation des gestes, serait totalement incapable de bidouiller le magnétophone, de faire des allers-retours sans arrêt. Pour le comédien, ça doit être épouvantable, l'usage du magnétophone. Franchement, la bande qui repart, qui rebande, ça doit être monstrueux. Mais à part ça, il doit tellement se concentrer sur ces gestes-là. Effectivement, il est tellement directif, tellement cadré, tellement construit qu'aucune émotion ne passe.
Ben non, je trouve que justement, contenu dans cette direction d'acteur très 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 précise et dans ces contraintes extrêmes, je trouve qu'il y a une forme de liberté et j'ai l'impression...
C'est un grand acteur pour ça, pour qu'il y ait une liberté après la contrainte.
Ah mais c'est un grand acteur quand même, Weber.
Pas le soir où j'y étais.
Peut-être que ça bouge, Moi ça m'a saisi et je peux vous dire qu'il y a eu un... Enfin dans la salle, il y avait un silence complètement hallucinant et les gens à la fin n'applaudissaient pas, ils attendaient comme ça complètement estomaqués. Et petit à petit quand les lumières se sont rallumées et qu'il a salué, les gens ont mis du temps à s'en remettre. Il s'est passé quelque chose. J'y étais hier et vraiment il s'est passé quelque chose
tant mieux.
Voilà. Mais après c'est la difficulté des et puis par ailleurs, Weber est un acteur qui bouge, hein, qui bouge beaucoup. Ça, je sais qu'il est différent selon les soirs. C'est pas une machine de guerre, je crois. Moi, hier, il m'a profondément remué. Vraiment, j'étais impressionnée par le spectacle. J'ai regardé sans sourciller pendant une heure.
Bon, mais c'est ça, c'est le spectacle vivant aussi. Effectivement, il y a des jours très différents d'autres, mais peut-être une minute à peine pour effectivement quand même saluer le travail de Frédéric Franck, hein, qui dirigeait la Madeleine, on le sait, donc qui avait repris le théâtre de l'œuvre, qui doit donc le céder, vous le disiez, Fabienne Pascaud. C'est le dernier spectacle.
À Benoît Lavigne et François-Xavier de Maison. Alors, il ont racheté le théâtre. Et il a une très jolie phrase. Il a fait un texte magnifique dans le programme, Frédéric Franck, que j'incite tout le monde à lire. Et donc, il reconnaît son échec. Il reconnaît que même les plus beaux spectacles, quand ça marchait, ne remplissaient que 180 personnes quand il aurait fallu 350 pour remplir la jauge. Et il dit, la prégnance de nos rêves est telle que l'existence travaille toujours à nous révéler que nous ne sommes en définitive jamais rien d'autre que ce que nous avons raté.
C'est très beckettien tout ça.
Voilà, c'est très beckettien.
Donc il faut rater mieux ailleurs, on l'espère pour Frédéric Franck.
Mais vraiment, je recommande ce texte et ce coup de chapeau au théâtre public, au théâtre privé surtout, et la difficulté d'être un directeur de théâtre privé et que ça ne veut pas dire grand-chose, théâtre privé.
Oui, puis c'est un grand monsieur du théâtre tout court, Frédéric Franck, donc j'espère que d'autres aventures seront possibles ailleurs. Pour l'heure, la dernière bande, Samuel Beckett, Jacques Weber, Peter Stein au Théâtre de l'Œuvre, jusqu'au 30 juin, le texte bien sûr publié aux éditions de Minuit.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de conclure par un coup de fil passé à Philippe Beau, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu de vendredi soir, Antoine Guillot.
Qui vous a fait gagner des invitations pour l'exposition consacrée à Paola Moderzone-Becker au Musée d'Art Moderne à Paris.
Est-ce que bien dit?
Oh bah merci. Je tiens aux zones. Je vous avais demandé qui avait écrit un requiem pour une amie en hommage à l'artiste, et c'était évidemment Rainer Maria Rilke.
Ce soir, que gagnons-nous, Antoine?
Des livres, La pudeur d'Adèle Van Rett et Eric Fiat dans la collection Questions de caractère, une coédition France Culture. Et Plon, qui a dit en parlant de pudeur qu'elle fait le charme de l'amour comme le prix des abandons?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Pour l'heure, place au coup de fil de la dispute.
Hello.
Et ce soir, j'appelle le magicien et ombromane Philippe Beau, l'ombromanie, art de manier l'ombre avec ses mains. Vous êtes peu dans le monde, paraît-il, une vingtaine, m'a-t-on dit, après des créations à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au Grand Palais en 2006, au 104, à Paris en 2012, des collaborations aussi avec le cinéma. Vous êtes sur scène pour deux spectacles, la scène nationale de Combes-la-Ville, L'homme aux mille mains, la magie Cocteau et Magie d'ombre et autres tours, ça, les 17 et 18 mai. Mais commençons peut-être par le commencement. Philippe Beau, comment devient-on ombromane? Est-ce que c'est un art qui se transmet?
C'est un art qui se découvre quand on est très jeune. Je pense qu'on a tous, essayé de le faire quand on avait 5 ou 6 ans. Ça, c'est quelque chose qui est commun entre tous les êtres humains. C'est tout s'amuser avec la lumière depuis la nuit des temps. Après, pourquoi continuer? C'est vrai que ce sont des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer un maître magicien qui faisait aussi un petit peu d'ombre, c'est pas sa spécialité, mais il m'a initié, m'a donné quelques bases. Si vous voulez, il n'y a pas d'école pour se former à cette discipline, on se forme en autodidacte.
Alors tellement en autodidacte que vous avez développé l'ombromanie en créant de nouvelles formes. Il y a un véritable travail de recherche, comme on le dirait, d'un scientifique vous concernant.
C'est une discipline qui me passionne. Je me suis toujours intéressé aux origines de l'ombre. Je suis passionné de cinéma, donc forcément, il y a beaucoup de connexions entre la création d'une image et le cinéma. C'est vrai que je me suis beaucoup amusé à créer des ombres, soit géantes, soit en relief. Et puis, en fait, la grande difficulté, c'est de créer une mise en scène. Enfin, qu'est-ce qu'on raconte avec ces ombres? Dans le premier spectacle, Magie d'ombre et autres tours, la thématique, c'est le cinéma.
Ouais.
On va chercher les origines de l'image. Et le deuxième, on va dire, c'est un aller-retour entre l'œuvre de Jean Cocteau et mon travail.
Alors, pour alors revenons dans l'ordre que vous voulez, mais alors prenons Cocteau, l'homme aux mille mains, la magie Cocteau, c'est le titre de ce spectacle, une dizaine de tableaux. Il s'agit d'aller aussi à la rencontre de l'univers de Cocteau, qui est riche aussi, puisque lui aussi a utilisé plusieurs médiums pour s'exprimer. Il aimait jouer avec les illusions, lui aussi. Comment est-ce que vous avez construit ce spectacle, Philippe Beau?
Le point de départ, c'est un poème qu'il a écrit dans les années 50, qui s'appelle « Homme aux mille mains ». Comme au pluriel, c'était un poème qui s'adressait aux magiciens, aux créateurs d'illusions, réflexions sur l'enfance. Et puis, c'est un personnage qui m'a toujours accompagné depuis pas mal d'années. J'étais vraiment fasciné par la main, les mains créatrices, les mains d'artistes. Et puis, évidemment, il aimait beaucoup ce rapport avec l'illusion qu'on retrouve dans ses œuvres, dans ses films, dans ses pièces. Ça me parlait énormément en fait. Hein. En tant que magicien, en tous les cas, je voyais beaucoup de connexions. Et puis, il y a eu ces profils qu'il a peints tout au long de sa vie. Mmh. Et moi, dans mon travail d'ombromane, je crée aussi des profils. Alors, ça peut être des animaux, mais aussi il y a beaucoup de personnages que j'essaye d'être le plus fidèle possible. Du coup, tous ces points communs ont créé ce spectacle qui finalement est assez riche au final. Je ne m'attendais pas à avoir autant de points communs entre mon univers et puis le sien.
D'autres points communs, vous l'avez dit, c'est avec le monde du cinéma, mais c'est vrai que l'ombromanie, alors on voit aussi au Théâtre d'Ombre, c'est une sorte de proto-cinéma. C'est un art qui vous inspire beaucoup, vous l'avez dit, auquel vous collaborez aussi parfois. Magie d'ombre et autres tours, il se nourrit d'aller-retour aussi entre ombromanie, magie et cinéma. Quelques grands noms aussi vous ont inspiré là, Philippe Beau.
Dans ce spectacle qui est, si vous voulez, la scénographie est assez simple, un écran blanc en fond de scène qui vit d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des projections d'extraits de films, il y a à la fois des tours de magie qui sont filmés en direct, retransmis sur le même écran. Puis cet écran me sert aussi à créer des jeux d'ombre. J'évoque des cinéastes, évidemment, comme Méliès, qui est également magicien. Voilà, il y a des évocations aussi de films, Franju, Bresson, Woody Allen, qui est un fan de magie, ou Orson Welles aussi, qui a toujours été attiré tout au long de sa vie par la magie. Donc voilà, j'essaie de faire découvrir, on va dire, ces envies de réalisateur, et puis... C'est une plongée hein, dans les origines de l'image qui me paraissait intéressante à l'heure actuelle où tout est très technologique. Là, je mets à disposition un art qui est un peu, on appelle ça low-tech. Hein. Il n'y a rien, il y a juste une main, deux mains et puis une lampe. Et finalement, le public est assez touché en fait de voir juste des ombres se créer. Je fais aussi beaucoup appel au langage cinématographique. En fait, avec les ombres, on peut créer des zooms, des morphings, des travelling.
Oui, spectacle très riche, effectivement, moi je trouve tout à fait fascinant, émerveillant, au sens premier, deux spectacles à découvrir à la scène nationale de Comble-la-Ville, au Théâtre Sénart. Philippe Beau, vous présenterez ces deux spectacles, je rappelle leur titre, L'homme aux mille mains, la magie Cocteau et Magie d'ombre et autres tours, ce seront les 17 et 18 mai. Merci beaucoup Philippe Beau. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Anna Segalevich, Fabienne Pascot, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez vous abonner à notre podcast et un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. La prise de son assurée ce soir par Alex Dang. La réalisation signée Daniel Finot. Je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Charlotte Garçon et Julien Gester. Notre affiche Maggie a un plan de Rebecca Miller. Et puis l'exposition Happy Chat Pong verra c'est à cool à la galerie Tori. Nous évoquerons aussi plus rapidement la sortie en DVD de Hôtel Terminus de Marcel Ophuls. à l'atelier d'image, et le livre « Le cinéma, art subversif » d'Amos Vogel chez Capricci. Nous retrouverons Antoine Guillot pour une nouvelle revue de presse culturelle de la dispute, les choix de la soprano Patricia Petitbon. Invité de la dispute toute cette semaine, il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, Hors-Champ parlera de l'air. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction.